Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Maëlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. Nous irons à Hong Kong dans ce journal où les manifestations de plus en plus violentes ont forcé à réagir le gouvernement chinois. Pékin appelle à la sévérité envers les fauteurs de troubles. Un nouvel attentat à Kaboul a visé hier un proche du président afghan alors que débute officiellement la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Et puis nous irons en Écosse également où se déplace aujourd'hui le nouveau premier ministre anglais Boris Johnson. Sa tâche sera rude, nous dira Marina Daras. Le jour du dépassement, c'est maintenant. Ce lundi 29 juillet, nous avons dépensé toutes les ressources que la Terre est capable de produire en un an. Nous verrons comment ce jour est calculé. Enfin, les décrets sur la réforme de l'assurance chômage sont parus aujourd'hui avec quelques subtilités passées inaperçues, nous expliquera Maxime Fayolle. Après ce journal, au menu de la grande table d'été, Maëlys.
Eh ben, il y aura l'exposition Backside, dos à la mode au musée Bourdelle à Paris et le portrait du chef Alexandre Gauthier.
À tout à l'heure. Elles avaient pourtant commencé dans le calme, mais depuis quelques jours, les manifestations des Hongkongais mécontents se font de plus en plus violentes, à tel point que les autorités chinoises se sont fendues d'une conférence de presse aujourd'hui, événement rarissime, épreuve que Pékin, qui avait laissé le gouvernement local s'en débrouiller, est de plus en plus préoccupé. Depuis le début du mois de juin, des milliers de Hongkongais descendent régulièrement dans les rues pour des manifestations géantes et dans un premier temps pacifiques, mais la contestation ne s'est pas calmée avec le retrait du projet d'autorisation des extraditions vers la Chine qui avait mis le feu aux poudres. Désormais, c'est plus de démocratie que demandent les manifestants. Hier, des affrontements violents ont eu lieu avec les forces de police et nous devrions être en ligne avec notre correspondant sur place, Simon Le Plâtre, que nous n'avons pas, que nous essaierons de joindre dans un deuxième temps depuis Hong Kong. En attendant, nous allons parler de ce qui se passe en Afghanistan. À Kaboul, 20 personnes sont mortes dans une attaque hier. Attentat qui visait cette fois les bureaux d'un homme politique, Amroullah Saleh, colistier du président afghan Ashraf Ghani, ancien ministre de l'Intérieur et ancien chef des renseignements. 50 personnes ont été blessées également. Pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué. Amroullah Saleh, qui a donc réchappé à l'attentat, est connu pour ses positions extrêmement hostiles aux talibans. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Et surtout, cette nouvelle attaque est intervenue le jour de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle afghane.
En effet, la campagne pour l'élection présidentielle qui doit se tenir en principe le 28 septembre prochain s'est ouverte hier. 17 candidats sont en lice. L'actuel président afghan Ashraf Ghani, qui se représente pour un deuxième mandat, a prononcé un discours devant ses partisans à Kaboul. La paix arrive et les négociations avec les talibans auront bien lieu, a-t-il déclaré. Or, les talibans ont, dans la foulée, répété qu'ils refusaient d'entamer des pourparlers de paix directe avec le gouvernement afghan. Ils estiment qu'il n'a aucune légitimité. C'est pourtant l'une des conditions que les Américains posent pour commencer leur retrait définitif du pays. Il y a encore 14 000 soldats américains sur le sol afghan. Il faut préciser que Washington négocie avec les talibans, et ce depuis plus d'un an. Un nouveau cycle de négociations doit d'ailleurs s'ouvrir cette semaine à Doha, au Qatar, où les talibans disposent d'une représentation. Le porte-parole des talibans a fait savoir hier sur Twitter que les pourparlers intra-afghans ne commenceront qu'une fois un calendrier de retrait annoncé. Pour eux, c'est un préalable à toute discussion. Les talibans, actuellement en position de force, veulent imposer leurs conditions et leur tempo. Il y a donc fort à parier que plus l'échéance de la présidentielle va se rapprocher et plus les attentats vont s'intensifier. La semaine dernière, Kaboul a déjà été touchée par 3 attentats consécutifs revendiqués par l'État islamique et par les talibans.
Merci beaucoup Valérie Crova. Nous revenons à Hong Kong où nous avons retrouvé la liaison avec Simon Le Plâtre. Bonjour, vous êtes le correspondant de France Culture sur place. Nous disions donc que Pékin avait réagi ce matin en demandant plus de sévérité envers les fauteurs de troubles.
C'est ça. Pour Pékin, c'est un grand malentendu. Après 8 semaines de mobilisation, la Chine a expliqué cet après-midi que les Hongkongais ne connaissaient pas bien la loi chinoise, d'où leur crainte face au projet de loi d'extradition vers la Chine. Sans doute pas de quoi apaiser les Hongkongais qui craignent d'être à la merci des tribunaux chinois à la botte du pouvoir communiste. Aujourd'hui, la priorité pour Hong Kong doit être de punir les violences et les actes illégaux, de restaurer l'ordre social le plus vite possible et de maintenir un environnement favorable pour les affaires. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong, l'agence chinoise responsable de ce territoire autonome. C'est la première fois que l'agence organisait une conférence de presse à Pékin. Elle faisait suite à un nouveau week-end de manifestations et de violences à Hong Kong, alors que le mouvement s'inscrit dans la durée. La frustration monte chez les manifestants devant l'absence de réponse des autorités. À chaque fois, chaque week-end, le niveau de violence semble augmenter peu à peu.
Merci.
Hier soir, les rues du centre de Hong Kong ont été le théâtre de nouvelles batailles rangées entre les manifestants et la police, avant d'être plongés dans un brouillard de gaz lacrymogène pour évacuer les plus déterminés. Au final, les affrontements ont fait une quinzaine de blessés et la police a arrêté 49 personnes.
Merci beaucoup Simon Leplâtre, en direct donc depuis Hong Kong. Une fusillade de plus aux États-Unis. Hier, 3 personnes au moins sont mortes et 15 ont été blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy en Californie. Le suspect aurait été tué. Cette violence meurtrière intervient alors que la Californie a tenté de mettre en place une limitation des armes à feu. On le rappelle, aux États-Unis, le droit de détenir une arme est garanti par le 2e amendement à la Constitution. En Californie, donc, les précisions de notre correspondant sur place, Loïc Piala.
Depuis le 1er juillet, quiconque va acheter des munitions en Californie doit se soumettre à une vérification de ses antécédents. L'exemple le plus récent de l'encadrement législatif du port d'armes dans le Golden State, plus strict que presque partout ailleurs dans le pays. Il faut notamment un délai de 10 jours entre l'achat d'une arme et son obtention. Mais il est aussi possible dans tout l'État d'avoir une arme sur soi à condition qu'elle reste cachée et de posséder un permis. Permis qui, lui, ne sera pas accordé partout dans l'État. Les régions rurales ont tendance à être plus laxistes que les grandes villes sur le sujet. Et justement, Gilroy, la ville où a eu lieu la fusillade de dimanche, se situe dans une région rurale. L'agriculture en est l'une des principales économies, d'où ce festival de l'ail qui rassemble des dizaines de milliers de personnes depuis 40 ans. Le festival lui-même était une gun-free zone, ce qui signifie que les armes y étaient interdites. Mais le tireur a, semble-t-il, réussi à contourner la sécurité en découpant un grillage.
Loïc Piala, c'est son premier déplacement officiel et la première étape d'une tournée des différentes nations du Royaume-Uni. Boris Johnson est en Écosse aujourd'hui, l'Écosse qui avait voté pour se maintenir dans l'Union européenne et l'Écosse qu'il faudra convaincre de ne pas couper les liens avec Londres après le Brexit. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a d'ores et déjà prévenu, elle a besoin d'une option alternative à la stratégie de départ du nouveau premier ministre anglais. Sur place, les précisions de Marina Daras.
Boris Johnson s'aventure aujourd'hui au nord de la frontière anglaise pour renforcer l'union entre les 4 nations qui forment le Royaume-Uni. Il profitera de cette visite pour promettre un nouvel accord de croissance de près de 330 millions d'euros pour stimuler le développement des zones les plus rurales de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Mais après les grands discours, Boris Johnson aura du fil à retordre. Il s'entretiendra cet après-midi avec la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui n'hésitera pas à réitérer sa volonté d'organiser un second référendum d'indépendance si l'Écosse est traînée hors de l'UE sans accord de divorce. Boris Johnson devra également affronter son propre parti et notamment la dirigeante des conservateurs écossais, Ruth Davidson, grande critique du nouveau Premier ministre. Ruth Davidson craint notamment que la sortie prématurée sans accord de l'UE, comme le prévoit et le promet Boris Johnson, renforce la cause sécessionniste de Nicola Sturgeon. Alors que le nouveau gouvernement de Boris Johnson travaille désormais sous l'hypothèse qu'un Brexit sans accord aura bel et bien lieu, les risques de voir le Royaume-Uni se désunir sont de plus en plus importants. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon du SNP, et son homologue gallois Mark Drakeford du Parti travailliste ont tous deux déclaré qu'il serait inadmissible que le Royaume-Uni quitte l'UE sans un accord.
Aujourd'hui, lundi 29 juillet, la population mondiale a consommé la totalité des ressources naturelles que la Terre peut produire en un an. Demain, donc, l'humanité vivra à crédit, si l'on peut dire. C'est en tout cas cette image que souhaite faire passer l'ONG WWF France, qui tous les ans publie un rapport sur le sujet en partenariat avec le Global Footprint Network, un think tank indépendant. Bonjour Margot Delpierre.
Bonjour.
Alors comment cette date, qui s'avance d'année en année, est-elle obtenue?
Grâce à 3 millions de données statistiques de 200 pays, elles proviennent de l'ONU pour l'alimentation, de l'Agence internationale de l'énergie, ou encore du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution l'évolution du climat. Et c'est un institut de recherche, le Global Footprint Network, qui met en forme ces données pour déterminer le jour du dépassement depuis 1970. Il se base sur deux indicateurs. D'un côté, l'empreinte écologique, soit la surface de la terre utilisée par l'homme pour pêcher, élever du bétail, cultiver, déboiser ou encore construire et brûler des énergies fossiles. De l'autre, la biocapacité, soit le total des ressources produites par la planète en un an. Résultat, dès que l'empreinte écologique dépasse la biocapacité de la planète, nous sommes dans le rouge. Si toute l'humanité vivait comme des Français, il faudrait plus de 2 terres et demie, 5 terres si on vivait comme des Américains.
Alors cette date du dépassement, elle n'est pas la même pour tous les pays.
Non, elle est fixée au 29 juillet au niveau mondial, mais au 15 mai pour la France, et il y a des disparités encore plus flagrantes. Si on prend l'exemple du Qatar, cette fameuse date arrive seulement 42 jours après le début de l'année. C'est l'un des pays au monde qui émet le plus de CO2 par habitant, en raison notamment de l'exploitation pétrolière et gazière. Le Qatar qui a pourtant promis un bilan carbone neutre pour la Coupe du Monde de football. Elle aura lieu sur ses terres en 2022. L'Indonésie, en revanche, n'atteint le dépassement que le 18 décembre. Globalement, cette date ne fait qu'avancer dans le calendrier. Elle survient 2 mois plus tôt qu'il y a 20 ans. Et si le mode de calcul est parfois critiqué, le message reste le même. On peut mieux faire.
Merci beaucoup, Margot Delpierre. Alors, l'inertie des États face au réchauffement climatique, parlons-en avec cette décision de justice européenne délivrée aujourd'hui et qui concerne 2 réacteurs nucléaires belges. 2 associations écologiques avaient déposé un recours devant la justice belge pour faire annuler la prolongation de ces réacteurs jugés vétustes. Prolongation accordée sans enquête publique, notamment concernant les impacts environnementaux. La décision de la justice européenne a été rendue ce matin. La Belgique n'a pas respecté la législation. À Bruxelles, Lakshmi Lota.
La Belgique a décidé en 2015 de prolonger le fonctionnement de 2 de ses centrales nucléaires. Selon la Cour de justice de l'UE, un tel projet doit impérativement être soumis à une enquête sur les conséquences environnementales. Les risques encourus sont comparables à la mise en service initiale d'une centrale, peut-on lire dans l'arrêt publié ce matin. Les travaux d'envergure pour moderniser les 2 réacteurs sont, je cite, « de nature à affecter la réalité physique des sites concernés ». De plus, les centrales de Doel 1 et Doel 2 sont situées à proximité de la frontière belgo-néerlandaise. Ce type de projet doit donc également être soumis à une procédure d'évaluation avec le pays frontalier, conclut la Cour de justice de l'UE. La juridiction européenne donne donc raison aux 2 associations écologistes qui ont déposé un recours devant la justice belge, même si elle ajoute « la prolongation sans évaluation est justifiée exceptionnellement en cas de menace réelle et grave de rupture d'approvisionnement en électricité. La Belgique pourra régulariser la situation et effectuer ses évaluations environnementales. C'est maintenant à la Cour constitutionnelle belge de résoudre l'affaire. Le pays a décidé en 2003 de fermer toutes ses centrales au bout de 40 ans de service avant de changer d'avis pour celle de Doel, désormais productrice d'électricité jusqu'en 2025.
Lakshmi Lotal. En France, la réforme de l'assurance chômage est en marche. Ces décrets ont été publiés aujourd'hui au Journal officiel. Officiellement donc, il faudra avoir travaillé au minimum 6 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir des droits. C'était 4 mois sur les 28 derniers mois auparavant. D'autres changements sont actés également, comme l'instauration d'un modeste bonus-malus sur les contrats courts. Et puis, une mesure passée plus inaperçue, mais dont les conséquences sont potentiellement importantes pour les demandeurs d'emploi. L'UNEDIC est prié d'augmenter de 1% sa contribution au financement de Pôle emploi. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Alors il faut d'abord comprendre le système en vigueur, puisque Pôle emploi est financé par l'État mais aussi par l'UNEDIC. L'UNEDIC qui gère l'assurance chômage verse donc 10% des cotisations chômage collectées pour financer Pôle emploi. Donc concrètement, quand les cotisations employeurs et la CSG permettent de cumuler 37 milliards d'indemnités pour les chômeurs, eh bien 10%, 3,7 milliards, est amputé pour le fonctionnement de Pôle emploi. Avec la réforme, le gouvernement augmente cette part de 10 à 11%. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ce sont 400 millions d'euros de plus qui n'iront pas directement vers les chômeurs, mais vers Pôle emploi. Quand on sait que la réforme prévoit déjà une réduction des droits de 3,5 milliards d'euros, c'est la double peine pour les demandeurs d'emploi. Et les syndicats craignent même que Pôle emploi ne bénéficie pas réellement de cette augmentation, car l'État pourrait rogner sa contribution d'autant. Des syndicats qui n'ont pas été concertés sur ce point et désormais coupés du processus décisionnel. Depuis 2017, il existait une convention sur l'assurance chômage où il pouvait pouvait négocier avec le gouvernement. Ils viennent de découvrir qu'elle a été abrogée par la réforme. Un coup de poignard dans le dos qui pourrait bien être attaqué d'ailleurs par les syndicats directement en justice. Ils ont désormais 2 mois pour le faire.
Merci beaucoup Maxime Fayolle. Le temps de ce lundi pour finir. Un peu de vent et de pluie sur la façade ouest et l'Aquitaine. Sur le reste du pays, journée calme, bien ensoleillée et pas trop chaude. Les températures comptaient de 22 à 25 degrés en Bretagne, 25 à 29 degrés en général et localement jusqu'à 34 degrés sur la Méditerranée. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau rendez-vous avec l'information.